Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'info locale et régionale sur Calade. Au sommaire de notre édition. Depuis plusieurs semaines, le Citral et Carpostal Villefranche, le délégataire du réseau Libellule, travaille pour organiser les conditions de reprise, dont notamment la mise en place de mesures de sécurité sanitaire. Joint par téléphone Laurie Blanc, chef de projet Citral et réseau de transport Libellule. Puis, déconfinement, les parloirs reprennent en prison dès à présent et jusqu'au 2 juin. Un déconfinement progressif, une prise de risque pour l'Union régionale UFAP-UNSA Justice de Lyon. Joint par téléphone avec nous Dominique Verrière, secrétaire général de l'Union régionale UFAP-UNSA Justice de Lyon. Calade, le journal. Quelques jours seulement après le déconfinement en France, la prudence reste de mise. Le bilan de l'épidémie de coronavirus était de nouveau en hausse mardi soir, avec 348 nouveaux décès en 24 heures. Mais le nombre de patients lourds en réanimation continue de baisser, selon la Direction générale de la Santé, la DSG. Cependant, la pression sur les services d'urgence continue de décroître. Dans les effets du confinement, un quart des fumeurs a augmenté sa consommation de tabac. Plus d'un quart des fumeurs a plus fumé durant le confinement. Tandis que près d'un quart des consommateurs d'alcool déclarent en avoir moins bu, selon une enquête de l'Agence sanitaire santé publique France, publiée ce mercredi. L'ennui, le manque d'activité, le stress et le plaisir sont les principales raisons mentionnées par les fumeurs ou usagers d'alcool ayant augmenté leur consommation. On note également que l'augmentation aussi bien pour le tabac que pour l'alcool est corrélée au risque d'anxiété et de dépression. Dans le calendrier des mesures de déconfinement jusqu'à l'été en France, si l'épidémie continue de ralentir au rythme espéré par les autorités, la seconde phase du plan du gouvernement pourrait entrer en vigueur le 2 juin. Mais certaines activités ne reprendront pas avant le mois de septembre. Autonomie sanitaire, revenu universel, télétravail, les propositions citoyennes pour le jour d'après pleuvent. Pendant les 8 semaines de déconfinement, les Français ont eu le temps d'imaginer ce fameux monde d'après. Certains le souhaitent plus écologiste, plus solidaire, plus sobre et plus démocratique. Les citoyens se prononcent d'abord en faveur d'une autonomie sanitaire et d'une réorientation. Ils appellent notamment à relocaliser la production de matériel et de produits stratégiques de santé et à revaloriser les salaires du personnel médical. Concernant le travail, ils souhaitent massivement mettre en place un revenu universel à partir de 18 ans. Les citoyens ont également voté pour une végétalisation d'ampleur de l'alimentation en restauration collective publique et privée, un soutien aux circuits courts, la création d'un enseignement obligatoire au climat et à l'environnement ou encore le développement du vélo. Article du journal Le Monde. Depuis plusieurs semaines, le Citral et Carpostal Villefranche, le délégataire du réseau Libellule, travaille pour organiser les conditions de reprise dont l'enjeu réside notamment dans la mise en place de mesures de sécurité sanitaire efficaces tant pour les usagers que le personnel. Joint par téléphone Laurie Blanc, chef de projet Citral et réseau de transport Libellule.
Oui, tout à fait. Alors, l'offre de transport était maintenue pendant la période de confinement et représentait environ 50% de l'offre habituelle. Et à partir du 11 mai, nous serons en mesure de proposer une offre représentant 80% de l'offre normale. Sur les lignes régulières, les lignes 1 à 5, les lignes circuleront en période de petites vacances scolaires. Les lignes scolaires 6 à 9, quant à elles, ne seront rétablies le 18 mai que si les établissements scolaires réouvrent. Et l'offre de transport à la demande, le service Rezalib, sera quant à lui opérationnel à partir du 18 mai.
Donc là, on parle de l'agglomération de Villefranche.
Hein, absolument, c'est le réseau Libellule.
Alors, comment s'est passé, peut-être, avant de nous dire un petit peu comment vous allez gérer cette reprise avec peut-être de plus nombreux voyageurs. Comment s'est passé jusqu'à présent le réseau
Bien, pendant toute la période, comme je le disais, le réseau a continué de fonctionner de manière adaptée, évidemment. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures sanitaires aussi bien pour les clients que pour les conducteurs afin de préserver leur sécurité. Donc, en ce qui concerne les conducteurs, leur poste de conduite a été très régulièrement nettoyé de façon donc à désinfecter les éventuelles contaminations. Les clients, nous les avons incités à la distanciation sociale ainsi qu'au port du masque.
Et en règle générale, tout s'est bien passé ?
Jusqu'à présent, effectivement, tout s'est bien passé.
Bon, très bien. Est-ce que ça fait une surcharge supplémentaire peut-être pour les conducteurs ou pas ? Ou de toute façon, c'est la règle et on s'y applique ?
Effectivement, ça représente un stress pour les conducteurs. mais ils sont tout à fait volontaires pour participer à la continuité du service public.
C'est une responsabilité un petit peu plus particulière en quelque sorte au sein de l'entreprise même, hein, de tous les personnels, j'imagine. Ça se ressent?
Ah oui, évidemment, bien sûr.
Ouais. Alors, donc, vous allez élargir hein, donc, ces prochaines semaines, comme vous le disiez, hein, si effectivement il y a une activité et avec une demande un peu plus avec les réseaux. Donc, comment là, ça va se passer? Il y a des conditions, j'imagine, des préconisations qu'il faut respecter.
Alors oui, évidemment, tout d'abord, on respecte les préconisations gouvernementales. Donc pour cela, le port du masque sera effectivement obligatoire afin d'accéder au réseau Libellule. Au-delà de ça, une signalétique spécifique et pédagogique sera installée à bord des véhicules de façon à inciter les clients notamment à laisser un siège libre entre les personnes n'appartenant pas à la même famille, les inciter également à laisser 1 mètre entre chaque personne. Les inciter à monter par la porte avant et sortir par la porte arrière, de façon à créer un flux qui évite les croisements entre personnes.
Et une distribution de gel hydraulique ou alors c'est à la charge des individus?
Alors, en agence commerciale, effectivement, du gel hydroalcoolique sera disponible pour les clients. En revanche, dans les véhicules, ce sera bien à la charge des clients. Tout le monde peut utiliser le réseau à condition qu'il s'agisse d'une nécessité, hein, je dirais. Néanmoins, la vente à bord ne sera pas possible. Donc, afin de se munir d'un titre de transport, les clients devront se rendre en agence commerciale qui, elle, réouvre le 11 mai.
Là, les agences commerciales, les gens, j'imagine, le savent, mais il y a la gare routière, c'est ça ou...
Alors, il y a une seule agence commerciale, c'est effectivement celle située en gare. Par contre, différents dépositaires bureaux de tabac vendent également des titres sur l'ensemble du territoire.
Est-ce que vous avez eu au niveau de la clientèle des abonnements qui n'ont pas pu être utilisés? Est-ce que vous allez faire un effort sur ces abonnements ou pas? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas du tout, au niveau des scolaires aussi
Pendant toute la durée du confinement, donc depuis mi-mars et jusqu'à mi-mai, l'ensemble des abonnements sont remboursés à tous les clients.
Suite aux mesures de confinement mises en place depuis le 17 mars dans le cadre de l'épisode actuel de pandémie Covid-19, le Citral s'est engagé au remboursement des abonnements Cardurhône pendant toute la période de confinement. Cette mesure s'applique aux abonnements mensuels, annuels et scolaires étudiants 2019-2020, ainsi qu'aux abonnements Rhône Pass. Le remboursement de la moitié du mois de mars et de la totalité du mois d'avril sera donc effectué d'ici fin août 2020. Pour le mois de mai, les abonnés bénéficieront d'une réduction de 50% sur leur abonnement. Toutes les informations et les modalités disponibles sur cardurhone.fr. La date limite de demande de remboursement est fixée au 15 juillet 2020. Déconfinement, les parloirs reprennent en prison. Dès à présent et jusqu'au 2 juin, les parloirs seront limités à une personne pour 1 heure maximum, une fois par semaine dans les prisons françaises où l'épidémie a été contenue. Le déconfinement va être progressif avec la reprise des parloirs pour les familles. Pour l'Union régionale UFAP-UNSA Justice de Lyon, une telle prise de risque est simplement inacceptable. Comme nous l'explique et joint par téléphone Dominique Verrière, secrétaire général de l'Union régionale UFAP-UNSA Justice de Lyon.
Bah, en fait, le problème du déconfinement dans les prisons, globalement, c'est que la progressivité, c'est-à-dire que on essaye de tout réouvrir plus ou moins rapidement avec une mise en service des choses à marche forcée, sans forcément prendre le recul nécessaire pour analyser ce qui pourrait poser problème. L'exemple particulier de la rouverture des parloirs est assez marquant par rapport à cela. C'est-à-dire que on rouvre les parloirs dans des conditions très particulières qui visent à ne pas utiliser les locaux dédiés à l'activité entre guillemets des parloirs habituels. Voilà, donc sur les parloirs, la problématique, c'est que, bah, pour prendre l'exemple qui nous concerne au plus près, Villefranche-sur-Saône, ça sera la salle polyvalente qui sera utilisée pour réunir les visiteurs et les détenus de l'établissement. Donc cette salle polyvalente est en plein cœur de la détention, avec un visu direct sur les bâtiments d'hébergement. Donc ça, pour la sérénité, je suis pas sûr que ça soit la meilleure des choses. Et pour la sécurité, en tout état de cause, je sais que c'est pas du tout la meilleure des choses. Parce que enfin, la hiérarchie prévoit qu'il puisse être mis fin à un parloir séance tenante si un détenu touche son visiteur, ne serait-ce que lui effleurer la main, etc. Moi, je vois pas trop comment les trois pauvres surveillants là, qui seront au milieu de cette salle pourront faire sortir une personne détenue qui aura commis le crime ultime du contact physique, quoi. Sachant qu'ils ne se sont pas vus depuis 2 mois, que bon, voilà, les gestes barrières pour les détenus, c'est quand même très, comment dire, c'est pas très culturel, hein. Bien qu'ils continuent à avoir des contacts physiques entre eux, les détenus. On leur a mal expliqué aussi, hein, clairement. Hein, l'administration, depuis le début, fait tout pour que les effets du confinement soient les moins forts possibles sur eux. A maintenu les promenades avec plusieurs dizaines de détenus dans la même cour simultanément. Bon, voilà, je ne pense pas qu'on puisse faire respecter les gestes barrières qui leur sont si chers dans l'idée, mais si peu chers dans l'application réelle, parce que ce n'est pas possible en fait. Donc nous, ce qu'on préconisait, c'était de maintenir les parloirs, par exemple, dans les locaux parloirs habituels, avec un dispositif de séparation transparent qui permettait de rester véritablement confinés chacun de son côté. Et pour limiter la propagation du virus en détention, parce que s'il commence à rentrer véritablement, on va avoir un mal fou à le contenir, quoi. Hein. La coque de la prison a préservé la première vague, puisque personne ne rentrait. Là, des gens vont rentrer régulièrement en détention. Bon, voilà, je sais pas trop, moi, comment les masques, les gants, le gel hydroalcoolique suffira à contenir tout ça. Franchement, je suis pas sûr, quoi. On verra.
Donc, alors, votre demande plus particulièrement, c'est...
L'idée, déjà, par rapport au cheminement, c'était de ne pas importer en détention des visiteurs qui n'ont rien à y faire. Si on prend l'exemple de la maison d'arrêt de Corba, par exemple, on va faire cheminer les familles des détenus par des chemins d'intervention qui sont réservés à l'intervention. Donc, c'est pas forcément des endroits qui sont appelés à être connus du grand public et particulièrement pas, j'ai envie de dire, des familles de détenus qui, par là même, pourraient communiquer des informations qui pourraient avoir un caractère un petit peu sensible pour la sécurité des établissements. Donc, bon, je trouve qu'on est quand même un petit peu léger dans toute cette procédure et qu'on va trop vite, qu'on n'a pas réfléchi correctement. Bon, voilà, c'est un peu malheureux quand même.
Sur la prison de Villefranche, qu'est-ce que vous allez faire finalement là? Est-ce que vous allez mettre en place ou vous allez décider de ne pas le faire tant que vous n'êtes pas sûr et garanti de la sécurité pour tout le monde?
Bah, je peux pas vous dire exactement au moment où on se parle de ce qui va se faire à Villefranche, puisqu'il va falloir déjà que je vois la note d'application locale de Villefranche, ce qu'elle prévoit, et qu'on voit aussi avec les collègues ce qu'ils ont envie de faire ou pas, parce que c'est pas moi tout seul dans mon coin qui vais infléchir les choses. Je vais simplement avertir les agents, mais il n'y aura pas vraiment besoin de le faire parce que je pense qu'ils seront au courant que si c'est bien ce que je crois savoir qui doit se mettre en application. Ils vont vraiment être en difficulté pour tenir ce qui est écrit dans ces lignes, quoi. Parce que suspendre un parloir déjà en box habituellement, c'est très très compliqué. Mais là, en plus, sous le regard de tous les co-détenus, de toute leur famille et tout, c'est pas possible, quoi. Les détenus, ils vont vouloir sauver la face, ils vont pas vouloir se faire stopper leur parloir, ça va pas être possible. C'est par exemple une disposition, ça, qui est juste inapplicable. Je vais pas avoir besoin de faire grand-chose pour que de toute façon ça ne s'applique pas, ça c'est pas possible. Bon, voilà. Après, empêcher les détenus d'avoir leur parloir s'ils se touchent par des sanctions, hein, parce qu'on peut appeler ça quand même comme ça. Qui peuvent aller jusqu'à leur retirer des crédits de peine exceptionnels et tout. Je suis pas sûr que ça sera très apprécié non plus. On verra ce que les magistrats décideront, parce qu'au final, je pense que la décision leur appartiendra. Mais bon, enfin, je vois pas tellement l'intérêt, même si je comprends la destination, mais à mon avis, ça fonctionnera pas non plus, ça.
L'Union régionale UFAP-UNSA Justice de Lyon constate, dans un communiqué, une fois encore, que l'administration fonctionne à marche forcée, sans anticipation pour les fonctionnements, sans moyens pour leur mise en application et la protection des détenus et des personnels. Et précise que 292 agents ont été testés positifs, dont un décédé à Orléans, et 118 détenus, dont un décédé à Fresnes. Une telle prise de risque pour l'Union régionale UFAP-UNSA est simplement inacceptable. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.